Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un phénomène né avec une malformation cardiaque. Malvoyante, elle fait néanmoins du sport dès sa prime jeunesse. Obtient son baccalauréat, fait hippocagne, cagne et surtout intègre à l'âge de 21 ans l'équipe de France Handisport. S'ensuit une carrière en compétition exceptionnelle, 11 médailles paralympiques à Nagano en 98, Salt Lake City puis Turin, quadruple championne du monde en 2004, elle cumule en tout près de 100 podiums sur la scène internationale. Bref, une femme au destin extraordinaire, une battante dotée d'une volonté de fer, une femme de courage qui nous donne une véritable leçon de vie. Voilà, donc il s'agit de Pascale Casanova. Bonjour Pascale Casanova.
Bonjour.
Voilà, vous êtes l'auteur d'un ouvrage « On m'avait dit que c'était impossible » paru aux éditions Loubatière, donc de mars 2015, si je ne me trompe pas. Et voilà, alors on va essayer de faire les choses dans l'ordre, parce que évidemment il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être d'abord vous demander d'où vous venez, quel est un peu votre biotope familial, et puis quel est ce handicap que vous avez et que vous aviez, je crois, dès la naissance.
Alors, mon biotope est assez varié puisque je suis du côté de mon père plutôt corse, du côté de ma mère plutôt marseillaise. Et en fait, j'ai grandi à Toulouse. Donc voilà, je suis née avec une malformation cardiaque, comme vous l'avez dit, et donc malvoyante de naissance. En fait, à la base, je ne voyais quasiment rien. Et c'est grâce à plusieurs interventions que j'ai pu commencer à voir un peu les formes, les couleurs et ce genre de choses. Et donc j'ai dû apprendre à faire avec tout de suite, quoi. En fait, j'ai instinctivement compris qu'il y avait deux possibilités pour moi. Soit vivre comme une personne handicapée vivait à cette époque-là, c'est-à-dire de manière très tranquille et en prenant la place que la société voulait bien laisser à l'époque, donc dans les années 70, aux personnes handicapées. Soit vivre la vie que je souhaitais vivre, que je rêvais de vivre, et celle pour laquelle j'allais devoir me battre. Et c'est cette deuxième solution que j'ai choisie.
Alors ça s'est fait. Alors peut-être avant ça, est-ce que vous pouvez détailler votre handicap pour qu'on comprenne bien quand vous dites une malformation cardiaque, ça veut dire quoi ?
En malformation cardiaque.
Et puis cette malvoyance, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors malformation cardiaque à côté de la malvoyance, on va dire que c'est presque anecdotique, même si ça me poursuit encore. La base, le cœur est formé de quatre parties, on va dire en haut ce qu'on appelle deux oreillettes, en bas deux ventricules, et normalement ces quatre parties sont étanches, si ce n'est avec des valves entre certaines. Et normalement entre les deux oreillettes c'est étanche, sauf que moi il y avait ce qu'on va appeler une fuite, donc il a fallu le reboucher. Et à cette époque-là, ça ne se faisait pas forcément très facilement, donc on a dû attendre une dizaine d'années pour m'opérer. Ce qui m'a permis de mener une vie normale à partir de ce moment-là et de faire même du sport de haut niveau. Mais ce qui m'a rattrapé il y a quelques années, puisque maintenant je subis les conséquences de cette opération à la manière dont elle était faite à l'époque, puisque c'était la seule manière qu'on pouvait faire, enfin qu'on connaissait. Et donc maintenant j'ai des troubles du rythme cardiaque. Bon, je sais que la prochaine étape c'est pose d'un pacemaker. Bon, bah ok, très bien, on fait avec. Et puis voilà.
Alors du côté de la malvoyance, si vous pouvez peut-être nous détailler ce...
Malvoyante, alors c'est très dur de dire comment j'y vois par rapport à vous. Forcément, je peux pas comparer puisque je ne sais pas comment y voit une personne qui voit bien. Ce que je peux dire, c'est que quelques petits exemples. Si je me regarde dans une glace, même en approchant le miroir contre mes yeux, je n'arriverai jamais à voir la couleur de mes yeux, par exemple. Si je vois une personne qui passe à un mètre de moi, si elle ne dit rien, je vais toujours avoir un doute sur qui est cette personne, même si c'est quelqu'un qui m'est proche. Si c'est dans un contexte dans lequel je ne m'attends pas à la voir, il y a de fortes chances que je ne la reconnaisse pas. Par exemple, un ami sur un lieu qui est sur mon lieu de travail, je ne vais pas deviner que ça peut être lui. Voilà. Donc par rapport, bon, on y reviendra plus tard, mais par rapport au ski ou à des choses comme ça, en fait, ça suppose que ça veut dire que je skie sans voir ni le relief, donc ni les bosses, ni les cassures, ni la qualité de la neige. Est-ce qu'il y a une plaque de glace, pas de glace, etc. Tout ça, je ne le vois pas. Donc ça, pour ça, bon, on y reviendra.
Mais on y reviendra,
voilà, j'ai un guide. Et au début, je n'avais pas de guide du tout, donc je faisais avec mes réflexes.
Alors juste, pardon, pour revenir, on continue à faire un peu à tirer le fil. Votre famille, dès le début, s'est montrée très proactive, c'est-à-dire qu'ils vous ont énormément aidé ou poussé, en tout cas, vous êtes devenue très sportive assez vite, et ce, parce que vos parents vous y ont poussé.
Alors, il y a une conjonction de facteurs, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que j'étais un enfant très très vivante qui voulait faire plein de choses, et qui, bon an, mal an, les faisait. Donc, en fait, mes parents n'ont pas vraiment... Bon, ils savaient bien que je n'y voyais pas grand-chose, mais ils ne se rendaient pas compte que c'était à ce point-là. Et c'est avec le recul, et lorsque j'ai grandi, que j'ai pu exprimer les choses. Et puis, notamment, à travers le livre dont vous parliez, que j'ai écrit l'an dernier, dans ce livre, mes parents ont découvert énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je me débrouillais tellement bien qu'ils ne se rendaient pas compte qu'il y a des choses que je ne voyais pas.
Est-ce que vous avez des exemples quand vous étiez enfant ou adolescente?
Par exemple, tout simplement, me déplacer dans la rue. Je ne vois pas les trottoirs ou une marche ou des éléments comme ça. Donc j'apprenais à faire avec et à repérer les choses par d'autres moyens. Des fois, ça ne marchait pas, des fois ça marchait.
C'est-à-dire que vous aviez une canne en fait?
Non, j'ai toujours refusé d'avoir une canne parce que pour moi, ça, c'était l'image caricaturale du déficient visuel qui n'était pas forcément très valorisante. Et moi, je ne voulais pas être placée dans cette catégorie-là, parce que moi, je voulais faire comme tout le monde. C'était vraiment mon leitmotiv.
Mais du coup, comment vous faisiez quand vous étiez enfant pour marcher dans la rue, par exemple?
J'y allais, puis si je me cognais, je me cognais. Et je ne sais même pas vraiment comment expliquer. Lorsque j'étais petite, à un âge où je ne voyais, j'avais pas encore été opérée, et je ne voyais même que le jour et la nuit, je ne voyais même pas les formes. Mes parents m'ont dit que je me déplaçais l'appartement. Je ne me cognais strictement jamais, même quand je courais. Et en fait, ils n'ont jamais compris comment je faisais. Donc, je ne saurais pas répondre à votre question. Peut-être qu'il y a un peu de chauve-souris en moi, avec un espèce de radar. Je ne sais pas.
D'accord. Alors, toujours est-il donc que vous grandissez en surmontant ce handicap, en donnant plus le change, vous avez l'air de dire.
Oui, je pense que c'est plus en le niant, en le refusant catégoriquement. Même si je savais bien qu'il était présent et qu'il fallait bien que je trouve des parades et des comportements de substitution, puisqu'il a fallu que j'apprenne à écrire en y voyant très peu, et j'étais allée scolarisée, je ne voyais pas au tableau, enfin on y reviendra.
Alors justement, oui, voilà. Allons-y, c'est-à-dire que donc vous avez une scolarité normale.
Alors à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma scolarité, je suis née en 73, en 75, je suis rentrée en maternelle, donc à l'âge de 2 ans. Et mes parents se sont vus proposer, lorsqu'ils sont allés voir un établissement spécialisé pour déficients visuels, quand ils m'ont vu, qu'ils ont vu que j'étais une gamine très très vive et qui captait vite et très dynamique et volontaire, ils ont proposé à mes parents d'essayer de m'intégrer dans une école ordinaire, donc l'école de mon quartier, pour mettre en œuvre, on va dire, ce qu'une loi de 1975, la première loi handicap en France, postuler, mais sans donner les moyens de l'appliquer. C'est-à-dire que cette loi disait que les enfants devaient être autorisés dans des écoles ordinaires, les enfants handicapés, mais sans dire ni comment, ni donner les moyens de ça. Donc en fait, on a réussi à persuader le corps enseignant de l'école de mon quartier de m'accepter, ce qui s'est passé fait sans mal.
C'est-à-dire que vos parents se sont battus, ils ont assisté?
Mes parents, ainsi que l'établissement spécialisé, le service spécialisé d'un établissement de l'Estrade, donc de l'ASEI, enfin le centre de l'Estrade, à Ramonville-Sainte-Agne, s'est battu avec mes parents et ont persuadé la directrice de l'école. Et puis, j'allais dire, après j'ai fait le reste, c'est-à-dire que je me débrouillais très bien et j'ai prouvé par A plus B que c'était possible.
Alors, c'est-à-dire, vous débrouillez très bien, parce que c'est vrai qu'en lisant votre livre, on se dit, mais ne serait-ce que comment elle faisait pour... La leçon était donnée au tableau après,
ouais,
en primaire.
En maternelle, on va dire que je faisais un peu, on jouait, etc. C'était pas bien difficile. À partir du CP, il a fallu commencer à écrire et à voir ce que la maîtresse écrivait au tableau. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait demandé aux maîtresses ou aux maîtres successifs de dire à haute voix ce qu'ils écrivaient au tableau au moment où ils l'écrivaient. Ce qui veut dire que moi, je devais prendre sous leur dictée en temps réel. Donc ça supposait d'être attentif de la première à la dernière minute du cours. Donc une grosse fatigue, un gros travail d'attention. Donc on développe certaines qualités par rapport à ça.
Comment vous faisiez pour écrire ?
J'écrivais sur des cahiers très très grosses lignes, donc des lignes épaisses à peu près de 1 cm de haut. Et lorsque il y avait des exercices, les maîtresses donnaient à mes parents la veille ou deux, trois jours avant les exercices, et mes parents les recopiaient en très, très grosses lettres pour que je puisse arriver à lire l'exercice. Donc, en fait, ils recopiaient tous les livres de lecture, tous les exercices. Et à l'époque, les photocopieurs agrandisseurs n'existaient pas. Donc, tout s'est fait, on va dire, à la main et avec beaucoup de bonne volonté et de temps. Et c'est clair que c'est grâce à eux que j'ai mis le pied à l'étrier, et ça, c'est évident.
Et alors, vous avez souvenir d'une scolarité comment ? C'est-à-dire une scolarité, difficile, pénible, très contraignante, justement ou...
Alors, moi, j'ai le souvenir que ce n'était d'abord pas facile, mais pas tellement par rapport au contenu. À la limite, j'allais dire, ça, c'était le plus facile. Mais par rapport aux relations avec les autres élèves, qui étaient souvent jaloux, parce que la gamine handicapée, en plus, elle était première de la classe, quoi. Parce que moi, dans mon idée, c'était arriver à prouver que j'avais ma place là, puisque c'était quand même, à la base, on n'accepte pas forcément... j'avais compris que c'était quelque chose qui était fragile et qui était remis en cause à chaque changement d'école ou d'établissement. Donc je voulais prouver que j'avais ma place au sein des autres, que je pouvais faire comme tout le monde. Et donc il y avait ce relationnel-là avec les autres élèves qui n'était pas toujours évident. Et il y avait l'attention et la fatigue, et puis la fatigue visuelle, la fatigue nerveuse, parce que ça demande une attention pour un gamin de 5, 6, 7, 10 ans, 12 ans, même 15 ans, qui est très très dur, quoi.
Alors, pour autant...
Parce qu'en français, quand on est en cours, entre guillemets, de français ou autre, en primaire, ça va. Quand on est en cours de physique en seconde, avec des vecteurs et des choses comme ça qui partent dans tous les sens, c'est un peu plus délicat.
Alors, pour autant, c'était difficile, mais en plus, vous commencez à faire du sport très jeune. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est-à-dire, rapidement, vous faites plusieurs heures de sport par semaine ?
Ouais, en fait.
Si c'est pas plus de 10 heures ?
Ouais. J'ai commencé le sport, j'ai commencé le ski, j'avais 4 ans, en suivant mes parents, parce que je voulais faire comme eux. Et puis ensuite, ils m'ont appris à faire du vélo, du roller, enfin plein de choses.
Juste expliquez-nous, comment on fait pour faire du roller ou du vélo quand on voit pas ?
J'en sais rien. Je sais pas, moi j'ai toujours fait, j'allais dire, comme tout le monde.
Mais vous suiviez quelqu'un ou vous faisiez du vélo toute seule ?
Non, je faisais pas du vélo toute seule sur la voie publique. Je faisais du vélo plus ou moins toute seule quand c'était au pied de l'immeuble de mes parents, sur un parking ou quelque chose comme ça. J'avais repéré les lieux, je savais où il y avait des obstacles et des choses comme ça. Puis des fois je les voyais pas ou je me faisais avoir. Mais bon, on tombe, on se relève. Hein. Mmh. Voilà, le roller c'est pareil. Le ski, c'était à peu près pareil. En général, je suivais ou un copain ou mes parents. Mais bon, quand je dis suivais, des fois, je leur passais devant, je faisais quelques virages tout seul, et puis voilà. Après, il faut être pas mal casse-cou quand même, hein, pour fonctionner comme ça. Parce que c'est assez gonflé, assez culotté.
En tout cas, vos parents vous ont poussé à faire du sport.
Ils m'ont pas freiné. Ils m'ont jamais poussé. C'était eux un mode de fonctionnement chez eux parce qu'ils étaient très sportifs. Et moi, j'ai toujours adhéré. Je me suis toujours régalée là-dedans. Pour moi, c'était normal. C'est-à-dire que, de même que des parents qui vont emmener un enfant au musée le dimanche, moi, mes parents m'emmenaient faire du vélo ou au ski. Donc, pour moi, c'était normal. Je me suis jamais posé la question de savoir si je voulais en faire ou pas.
Vos parents n'ont pas essayé de vous protéger, de vous couver en vous disant attention, ma petite chérie, fais surtout pas ça.
Et ça, je les en remercie beaucoup, 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 parce que je connais d'autres parents qui n'ont pas fait la même chose et
même avec des enfants qui sont pas handicapés.
Même avec des enfants ou aveugles ou pas du tout aveugles ou pas handicapés, et on en fait des gens complètement incapables de se prendre en charge. Donc voilà, heureusement, ils n'ont pas fait ça. Et sinon, après, pour revenir au sport, effectivement, à partir de la classe de 6e au collège, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'UNSS. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Donc, c'était le sport dans le cadre périscolaire. Et du coup, je faisais de la gym entre midi et deux. Donc, on mangeait vite à la cantine et puis ensuite, on allait s'entraîner. Et le mercredi matin, voire des fois les compétitions l'après-midi, ce qui faisait entre 10 et 15 heures de sport par semaine avec les cours de sport. Et moi, je me régalais, quoi. Enfin, j'étais quand même poisson dans l'eau. Alors, évidemment, le saut de cheval en gym, quand on ne voit le cheval que quand on a les mains dessus, c'est un peu chaud. La poutre qui fait 10 cm, hein, quand on vous demande de faire un certain nombre de figures, alors que vous n'avez que vos pieds pour la voir. Et que, sachant que quand l'équilibre d'une personne passe par trois points, qui sont sa posture, son oreille interne et sa vue, Si on enlève un des trois points, forcément l'équilibre est beaucoup plus précaire.
C'est-à-dire que sur la poutre, vous êtes pris, vous vous êtes frappé le visage contre la poutre
Je me suis pris quelques gamelles.
Ouais.
Ouais, je suis tombé un paquet de fois, ouais. Mais quand on tombe, on remonte.
Alors, pour finir peut-être sur cette première partie, avant qu'on rentre dans votre carrière de sportive, donc vous avez un bac B, mention bien, en 1991, et après vous faites une hypocagne et une cagne, c'est-à-dire que ça continue,
ouais.
Jusqu'à ce que vous entriez en équipe de France.
Alors non, j'ai pas arrêté les études en entrant en équipe de France.
Non, j'ai pas dit ça.
Voilà, mais... j'ai fait hypocagne-cagne, j'ai fait Sciences Po derrière, et pendant
Sciences Po
ma
Toulouse.
Deuxième... Ouais, Sciences Po Toulouse, et pendant ma... troisième année de Sciences Po, j'ai intégré l'équipe de France anti-sport de ski alpin. Et en continuant, en étant en équipe de France, j'ai fait une maîtrise de droit et un master en gestion d'entreprise. Puis ensuite, j'ai enchaîné avec ma carrière professionnelle. Donc en menant les deux de front, sans passe-droit ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Il n'y avait pas d'aménagement d'études et il n'y avait pas d'aménagement d'entraînement. Donc, alors, c'était deux vies en même temps.
Alors maintenant, avant qu'on close cette première partie, quels souvenirs vous gardez en fait de toute cette période avant, on va dire, votre carrière de championne? Est-ce que c'était au prix d'efforts surhumains que vous arriviez à faire face à la réalité et à avoir une vie normale, comme vous dites, ou pas?
C'était une quête permanente de faire comme les autres, au prix de gros efforts. Au prix d'efforts, j'allais dire, qui étaient pas difficiles en soi, mais difficiles par le regard des autres, par le fait que la société vous catalogue handicapé, ou que tout simplement les choses ne sont pas accessibles, ne sont pas faites pour les personnes malvoyantes. En tout cas, à l'époque, elles étaient beaucoup, beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous diriez du coup là à une personne justement malvoyante ou qui porte un handicap qui écouterait cette émission pour cette première partie de votre vie?
Je pense qu'il ne faut pas vouloir se protéger de la vie, parce que sinon, à se protéger de la vie, on passe à côté. Donc, c'est comme les gens qui refusent d'aimer pour ne pas être déçus ou pour ne pas souffrir. Oui, c'est sûr, on souffre pas, mais on vit pas non plus. Donc, j'allais dire, au-delà du handicap, le handicap doit pas être un prétexte à ne pas vivre ou à se protéger, à se calfeutrer. Non, le handicap doit être, j'allais dire, plutôt à la limite, une cause de faire autrement. Mais il faut faire quand même. Voilà, faut s'adapter, mais pas refuser de faire, sinon, à moins qu'on veuille passer à côté de sa vie. Mais là, c'est notre... chacun est libre.
Alors, on fait une première pause et après, vous allez nous parler de votre carrière de championne.
Ça marche.
Continuez sa route, quand...
l'Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission Pascal Casanova, femme de l'impossible. Avec vous, donc, Pascal Casanova. Donc, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, On m'avait dit que c'était impossible, aux éditions Loubatière, paru en mars 2015. Alors, vous nous avez fait un rapide parcours de votre vie avant de connaître cette carrière, on va dire, sportive exceptionnelle. Maintenant, rentrons à plein dans cette carrière, folle, quand on lit votre ouvrage, c'est vraiment très impressionnant. Donc, à 21 ans, vous rentrez en équipe de France handisport. Et alors, très rapidement, en fait, vous explosez, on va dire, je sais pas comment on dit.
Ouais, on peut dire
donc
ça.
Donc en ski. Ouais. Et alors, dites-nous comment se fait cette explosion, puisque je crois 2 ans après, quasiment, ouais, vous commencez à gagner vos premières courses.
Oui, en fait, 2 ans après l'entrée en équipe de France, donc je suis rentrée à l'automne 2014.
Vous aviez donc.
J'avais 21 ans et quelques mois. Et donc la première saison, en fait, c'était un peu pour faire mes preuves en équipe de France, c'est-à-dire que c'était le stop ou encore. Je devais prouver que j'avais ma place là aussi. Et bon, très vite, il s'est avéré que ça allait être OK, quoi, hein, ça partait bien. Et la seconde saison, donc 95-96, on avait en ligne de mire des championnats du monde qui se déroulaient à Wilchenau en Autriche. Donc moi, j'y allais, enfin la consigne que j'avais reçue des entraîneurs et qui était évidente pour moi, c'est en gros, j'y allais pour apprendre et pour voir, et sans aucune prétention. Et puis parce que j'étais novice sur la compétition de haut niveau, quoi. Et en fait, donc, je participais à 4 courses, descente, super géant, géant et slalom. Et à ma grande surprise, en descente, avec mon guide, on fait médaille d'argent. Donc toutes les nations, tous les entraîneurs étaient très surpris. Dans l'après-midi et le soir, aux remises des prix, aller voir nos entraîneurs français. Et le lendemain, j'ai remis ça. 2e médaille d'argent en super géant. Bon, après, en géant et en spécial, ça s'est moins bien passé, mais c'est normal. Et donc ça a commencé en fanfare, on va dire.
Et comment vous expliquez ça ? C'est-à-dire, vous aviez des aptitudes exceptionnelles, naturelles ou...
J'avais des bonnes aptitudes de glisseuse. Donc en descente et super géant, il faut avoir une bonne glisse, en plus d'une bonne technique. La technique, je ne l'avais pas forcément encore complètement, mais j'avais des bonnes bases. Et surtout, j'avais déjà un bon niveau, mais surtout, j'avais pas froid aux yeux, sans jeu de mots. Donc en fait, j'y suis allée à fond, en étant morte de trouille, mais j'y suis allée. Et peut-être un peu plus que d'autres concurrentes. Donc après, voilà, ça s'est joué, je pense, sur la glisse et sur l'engagement dans la course.
Vous aviez pas peur, je sais pas.
Si. La personne, enfin le skieur qui vous dit qu'il n'a pas peur quand il prend le départ d'une descente, c'est un fou. Ou alors il est menteur ou il est inconscient. C'est-à-dire qu'en descente...
Parce qu'il y a des risques, réellement.
On est autour de 100 km/h, donc sans voir, c'est quand même... Déjà, en étant valide, c'est risqué. Donc là, en plus, on est à 2. On est à des distances très très proches, puisque je suis à moins d'un mètre derrière le guide. Donc, autant dire que s'il y en a un des deux qui fait une erreur, les deux sont par terre. Parce qu'avec la vitesse, ça se joue en une fraction de seconde. Et du coup, oui, c'est risqué. Oui, il faut être un peu barge pour faire de la descente quand on est malvoyant ou non-voyant. Mais on a tous peur de toute façon en descente. Après, il faut arriver à combiner, à faire en sorte que cette peur soit de la bonne peur. Et faut pas la nier parce que de toute façon, elle est là. Après, il faut apprendre à s'en servir. Et ça, par contre, ça vient après un paquet d'années. Ça vient pas tout de suite.
En cas d'accident, il se passe quoi, en fait, pour vous et pour celui qui est devant vous ?
Ça peut être un aller direct en hélico à l'hôpital le plus proche. C'est en descente, en général, il n'y a pas trop de demi-mesure. Hein. Et ça peut être un des deux, comme les deux. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de tomber en descente, hein, en course. Ça s'est jamais terminé en hélico, mais ça s'est terminé par pas mal de contusions, une entorse ou autre. J'ai eu de la chance, mais ça aurait pu mal tourner, puisqu'une fois, ça a été l'histoire d'une entorse cervicale, donc j'ai eu beaucoup de chance, quoi.
Alors, on continue. Vous n'allez pas pouvoir nous dire, parce que sinon, en fait, ça prendra du temps, tous vos podiums, puisque vous, on disait en introduction de l'émission, c'est presque une centaine. Je ne sais pas, les principales courses, en tout cas, cette progression, ce succès. Je parlais de 11 médailles paralympiques. Donc, à Nagano en 98, Salt Lake City, donc 2002, ouais, et Turin en 2006. Et quadruple championne du monde en 2004. Alors, dites-nous les grandes étapes de votre carrière, peut-être. peut-être avant qu'on rentre dans le détail de la manière dont se passe ce type de course.
Je pense que la médaille qui m'a marqué le plus, il y en a deux. Il y a ma première victoire en Coupe du Monde, parce que pendant un moment, j'étais souvent sur les podiums, mais souvent deuxième ou troisième, et toujours derrière la même fille. Donc le jour où j'ai enfin réussi à la battre, en plus c'était sur une course sur deux manches et j'étais première à la première manche, donc j'avais d'autant plus la pression pour la deuxième manche, puisque sur les deux manches, en fait, l'ordre de départ de la deuxième manche est inversé, c'est-à-dire que le premier part en dernier. Donc on a un peu la pression. Donc le jour où j'ai réussi à la battre, ça a été quand même un grand moment, et ça a été le déclic. Et quelques mois plus tard, je faisais ma première médaille d'or au jeu Salt Lake City en descente, qui a quand même toujours été un peu mon épreuve de prédilection. Et là, c'est vrai que c'était en fait un peu comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir le résultat, toute la course s'est passée comme dans un rêve, c'est-à-dire qu'il faisait très beau, le ciel était dégagé, la piste était magnifique. Et j'avais vraiment l'impression de voler sur cette piste, c'était vraiment doux sous les skis, c'était tout passé presque comme au ralenti, comme dans un film. Et voilà, c'était magique. Et le résultat, à la fois m'a surprise et m'a pas surprise, parce que je me suis dit, si c'est pas un jour comme ça que tu gagnes, ça suffira jamais, quoi.
C'était voilà. En quelle année, pardon ?
En 2002.
D'accord. Et donc après, donc il y a ces fameux Jeux Olympiques, enfin il y avait déjà eu avant. Vous dites que vous avez fait 12 courses. Donc paralympique, puisqu'on ne dit pas paraolympique, on dit paralympique. Et vous en avez gagné 11.
Non, j'ai fait 11 podiums sur 12 courses.
11 podiums, pardon.
Ouais. Donc 4 à Nagano en 98, 4 à Salt Lake City, donc sur 4 courses à chaque fois, en 2002, et 3 à Turin. On partait là parce qu'on était avec ma guide qui me guidait depuis fin 2002. On était vraiment les favorites parce qu'on était vainqueur de la Coupe du Monde au classement général, enfin on dominait. Et on partait pour 4 médailles d'or, en fait. C'était un peu notre but entre nous. Sauf qu'un mois avant les Jeux, à l'entraînement, je me suis cassé la clavicule. Donc en guise de rééducation, 3 semaines d'arrêt juste avant les Jeux, c'est pas terrible. Enfin, en guise d'entraînement. Et du coup, bon, ça a entraîné un peu une peur de la part de ma guide, qui du coup a fait une faute en super géant et a raté une porte. Donc forcément, là, la course est perdue pour les deux. On a été disqualifiés, ce qui est normal, hein. Et du coup, on a fait, entre guillemets, que médaille d'or en descente, en slalom spécial, et médaille d'argent en slalom géant. Donc, franchement, un mois avant, j'étais à l'hôpital en train de me faire opérer. Si on m'avait dit que déjà je gardais mon titre en descente, ça me suffisait largement.
Alors, ça paraît complètement fou. Vous avez commencé à l'expliquer. Maintenant, expliquez-nous exactement comment ça se passe. C'est-à-dire que comment on fait pour aller à plus de 100 km/h en descendant en ski. Donc, on a bien compris, vous avez quelqu'un devant. Je ne sais pas exactement comment vous appelez ça. C'est quoi ? C'est un guide ?
Un guide. Oui, c'est ça, un guide.
Un guide.
Bon, déjà, il y a un préalable, c'est qu'il faut être un peu barge. Excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça. Faut aimer prendre des risques, faut être casse-cou. Ensuite, il faut avoir un bon guide, c'est-à-dire une personne qui est meilleur skieur que l'athlète. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu un premier guide qui a dû arrêter en 2002 parce que justement, il n'était plus suffisamment bon entre guillemets pour me guider. Et c'est pas du tout, fanfaron de ma part de dire ça. C'est voilà, c'était une réalité qu'ont acté les entraîneurs. Et lui-même a dit qu'il souhaitait arrêter parce que ça devenait dangereux. Donc, un guide qui passe devant, qui donne des indications à la voie. Si je pouvais faire un parallèle, je dirais que c'est un petit peu comme le leader de la patrouille de France. Alors, les vitesses ne sont pas les mêmes, mais le principe est exactement le même. C'est-à-dire que le leader, en l'occurrence le guide, va donner des indications. Donc, il va donner des indications de direction pour le ski, gauche ou droite. Et il va donner des indications... des fois de tracé ou de relief, par exemple s'il y a une cassure, s'il y a, de la glace, un changement de neige ou des choses comme ça.
Alors juste pour les virages, commençons par les virages.
Donc, alors pour les virages, en fait,
ils sont plus ou moins serrés, voilà. C'est gauche quand c'est très serré, c'est ça ?
C'est ça, quand ça va être très serré, par exemple en slalom spécial, ça va ressembler à quelque chose comme gauche, droite, gauche, droite, à peu près.
À ce rythme-là ?
Ouais, ça va très vite. Sachant que souvent on donne deux indications. Le premier gauche, ça va être pour indiquer la direction, parce que des fois ça peut arriver qu'on aille tout droit puis on refasse un gauche ou autre. Et Le deuxième, ça va être le top du déclenchement du virage, en fait. Donc, c'est assez précis.
Donc, quand c'est un virage très serré, il dit combien de fois gauche ?
À chaque fois, il va le dire deux fois.
Deux fois.
Faites gauche, gauche, droite, droite.
Et comment vous savez si le virage était plus ou moins serré ?
À l'intonation. Si c'est moins serré, ça va faire gauche, droite. Après, c'est une question de travail entre nous. C'est-à-dire qu'en descente, ça va être des longs gauche, gauche. Et s'il y a deux portes, parce qu'en descente, il peut y avoir deux portes dans la même direction, il va m'annoncer gauche en deux. Et il va continuer à dire gauche, gauche, jusqu'au moment où il va annoncer le droite, qui va me permettre d'anticiper le virage suivant. Ça va être gauche, gauche, droite, droite. Et puis il va continuer sur le droite, le deuxième étant le déclenchement. Sachant que le moment du déclenchement, ça va être vraiment au quart ou au dixième de seconde près. Puisque à ces vitesses-là, en une fraction de seconde, on fait beaucoup de trajets. Donc il faut que vraiment le rayon soit optimisé pour avoir la meilleure trajectoire possible.
Alors si on en reste sur les virages, c'est vrai que ce qu'on peut avoir du mal à comprendre, c'est comment vous faites pour prendre exactement le même quart que lui et pour ne pas dévier de ne serait-ce que 5% qui est arrivé, fait que vous êtes complètement séparés.
Ouais. Alors en fait, on va être très proche, déjà, pour qu'il n'y ait pas de perte entre guillemets en ligne, qu'il n'y ait pas trop de temps pour que l'info qu'il va me donner au moment où il me la donne soit encore valable pour moi au moment où je suis, quoi. Il y a déjà ça. Et deuxième chose, c'est que j'arrive à deviner sa silhouette. Donc, on est relié par émetteur-récepteur, ce qui permet d'avoir le signal audio précis sans défaillance. Puisque, en fait, à ces vitesses-là, ne serait-ce qu'avec le bruit des skis sur la neige, sans émetteur, on n'entend rien. Plus le vent, plus le bruit de la glace, etc. Parce que, petite parenthèse, il faut savoir que les pistes de compétition ne ressemblent pas aux pistes sur lesquelles vous skiez.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire que, par exemple, la veille au soir, ils les arrosent à la lance à incendie pour que ça gèle pendant la nuit, pour que ce soit bien du béton, pour que le premier et le dernier concurrent aient la même piste, que la piste bouge le moins possible. Sinon, ça va devenir une espèce de tracé de bobsleigh, puisque tous les skieurs vont passer au même endroit.
Donc c'est de la glace.
Le concurrent numéro 50, il va avoir une... Si on ne fait pas ça, il est dans une baignoire, quoi. Donc du coup, c'est de la glace, voire de la glace vive par endroit. Donc ça veut dire qu'il faut être très très précis, parce que si on se rate, bah, tout de suite on dérape, quoi. Alors on n'a pas les mêmes skis, pas les mêmes quarts, etc. On est bien d'accord, hein. Mais voilà. Donc du coup, au niveau des indications, il faut être précis. Au niveau de la trajectoire, il faut être précis aussi. Et après, c'est avec l'habitude, c'est avec l'entraînement, et il faut skier des heures, des mois, des années ensemble.
Alors, par exemple, pour la vitesse, comment vous faites ? Parce qu'on imagine que parfois, peut-être, vous prenez plus de vitesse que le guide qui est devant vous, non ?
Eh ben, c'est tout le challenge pour le guide, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'athlète, entre guillemets, c'est-à-dire le malvoyant ou non-voyant, qui doit donner le tempo. Et le guide s'adapte à ce tempo. C'est-à-dire le guide va donner une vitesse, puisqu'après, à la force, on se connaît. Donc, le guide va partir à une certaine vitesse et doit jeter des coups d'œil fréquents derrière, donc même à 100 km/h, pour s'assurer que la distance entre les deux reste constante. Et c'est vraiment cette distance constante qui va être la clé du succès. C'est-à-dire si on fait ce qu'on appelle l'accordéon, ça va être beaucoup moins bien en termes de résultats.
Et vous avez dû prendre des chutes, enfin,
quelques-unes.
Effroyables, non ? C'est...
Ouais, quelques-unes, ben voilà, tant que ce qui vous tue pas vous rend plus fort.
Alors, si on continue, par exemple, sur la qualité de la neige, après, comment il fait pour vous donner des indications ? Là, on a compris pour les virages, mais pour le relief...
La qualité de la neige, en général, sur la piste de ski, c'est quand même toujours la même. Ça va être en compétition, je veux dire, c'est toujours la même. Après, ça peut jouer à l'entraînement ou quand on va être en ski en dehors des tracés. Il peut dire poudreuse, glace. Après, c'est des conventions entre nous. En compétition, en général, c'est toujours de la glace, donc on ne se pose pas la question. Enfin, c'est de la neige très, très dure, donc on ne se pose pas la question. Donc il va donner en gros des indications de tracé s'il y a des figures particulières en slalom spécial, il y a des figures qu'on appelle bananes, enfilades, etc. Donc ça il l'annonce. Il va donner les indications de direction et il va s'adapter en temps réel au rythme de la personne qu'il a derrière. En fait le guide doit avant tout guider, enfin skier pour l'athlète et pas pour lui. C'est-à-dire si un guide décide de faire sa course, sans se préoccuper de celui qui est derrière, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, ça n'a aucun résultat en général.
Ce qu'on imagine, c'est que les guides sont aussi des champions. Est-ce que c'est des anciens champions olympiques aussi ou champions du monde qui, du coup, deviennent eux-mêmes guides ?
Alors, à la base, on trouve un guide souvent dans son entourage proche, dans sa famille. Et puis, quand on commence à monter en niveau, on va dire, mais en fait, il faut trouver des... C'est le principe, c'est avoir un skieur qui skie mieux que vous. pour que justement ils puissent s'adapter. Donc, ce que j'explique dans le livre, hein, c'est mon premier guide a arrêté parce que justement ça suffisait plus. Et ma deuxième guide, c'était une fille qui est aujourd'hui monitrice dans les Pyrénées, monitrice de ski, mais qui, quand elle était jeune, était en tant que junior, faisait des compétitions au niveau national. Alors, elle n'était pas en équipe de France, mais elle était, elle était sur le point d'être prise en sport-études pour partir dans les Alpes. Et puis, elle a refusé, et finalement, voilà, mais elle a un très, très bon niveau, quoi.
Alors, sur cette deuxième grande période de votre vie, qu'est-ce que vous diriez ? Parce qu'évidemment, c'est très particulier hein, d'être championne comme ça de ski, mais qu'est-ce qui peut parler à tout à chacun de cette expérience exceptionnelle ?
Ce qui m'a marqué personnellement, c'est la difficulté et la richesse de devoir concilier ce sport de haut niveau, extrêmement exigeant, avec des études qui l'étaient tout également, des études supérieures, puis une vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous oblige à s'organiser, à anticiper, à avoir une bonne résistance physique et nerveuse. Parce que, pour donner un exemple, quand je travaillais, le matin, je me levais vers 5h, 5h30 pour aller faire mon footing et être à 8h au boulot comme tout le monde. Et le soir, en sortant du boulot, donc je suis cadre, donc quand je pouvais sortir, je sortais et au lieu de rentrer chez moi, j'allais en salle de muscule. Donc ça fait des très, très grosses journées. Faut être très motivé. Et puis après, dans le sport de haut niveau, il y a des très bons moments, il y en a qui sont pas bons du tout, et il faut arriver à trouver son équilibre personnel dans tout ça. Moi, j'avais décidé de m'arrêter parce que j'estimais, en 2005, j'avais pris la décision d'arrêter en 2006, parce que justement, j'estimais que je trouvais que ça commençait à devenir un peu une routine, et je voulais pas tomber là-dedans, quoi.
Alors, vous pouvez dire, vous en avez dit quelques mots, mais votre carrière professionnelle en parallèle, vos études et votre carrière, quelle a été sa teneur jusqu'en 2006 ou moins ?
Mes études, donc après Hippocagne et Cagne, j'ai passé un concours d'entrée directement en deuxième année de l'IEP à Toulouse, Institut d'études politiques.
Oui,
on en avait mentionné. Ensuite, je suis rentrée en licence et puis en maîtrise de droit à la fac de sciences sociales de Toulouse. Ensuite, j'ai intégré un DESS, à l'époque on appelait ça comme ça, donc c'est comme un master 2, en gestion d'entreprise sociale, à l'Institut d'administration des entreprises. Donc en gros, l'année où je passais mon DESS, c'était l'année des Jeux de Nagano, donc il fallait arriver à tout concilier.
Et en 99, vous faites votre entrée dans le monde du travail, c'est ça ? Vous devenez juriste chez EDF ?
C'est ça, exactement. Et là, on apprend à gérer à la fois des grosses journées de travail et puis des grosses semaines ou des gros entraînements, des compétitions où le dimanche, on est au fin fond de l'Autriche et peut-être pas le lundi matin, mais le lundi après-midi, on est au boulot, quoi, parce qu'on faisait tous les trajets en bus. Donc, on arrivait à Toulouse vers 4-5 heures du matin, 6 heures du matin, et on enchaînait avec la journée de boulot. Donc
comment vous expliquez que vous avez réussi à tenir, en fait ? Vous étiez quoi ? Vous étiez dopé ? C'est que c'est exceptionnel ?
Ah non, ça, j'étais pas dopée.
Parce que tout à chacun n'est pas forcément fait pour ça, non ?
Non, ça c'est clair. C'est aussi pour ça que je me suis arrêtée à 33 ans. J'ai estimé qu'au bout d'un moment, non, j'étais surmotivée, puis je m'éclatais dans le ski et j'avais trouvé un équilibre qui me convenait. Et puis en plus, les dernières années, depuis 2003, j'étais secouriste à la Croix-Rouge. Donc l'hiver, j'étais vraiment dès que je pouvais sur les pistes. Et puis l'été, à l'époque, on avait quand même entre juin et septembre un peu de temps libre. Donc du coup, j'ai en profité pour faire des postes de secours avec les équipes de la Croix-Rouge où je suis devenue formateur aussi. Donc après, moi je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime faire plein de choses. Donc Ça m'a correspondu pendant un moment.
Alors on fait une deuxième pause musicale et puis après on va y voir peut-être les enseignements de sagesse que vous avez eu de ce long parcours et peut-être aussi, puisqu'on est sur une radio chrétienne, vous poser quelques questions sur votre vision de la vie et pourquoi pas peut-être votre foi.
C'est sûr que t'es de ma faute. Ça
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission Pascal Casanova, Femme de l'impossible, avec cet ouvrage donc, que vous avez écrit, On m'avait dit que c'était impossible, aux éditions Loubatière, paru en mars 2015. Pour rappel, si vous nous prenez en cours de route, Pascal Casanova donc, est malvoyante et elle a été tout simplement championne olympique, championne du monde de ski. Voilà, donc super G, descente, etc., etc. Pour les non-initiés, peut-être vous pourrez redétailler un petit peu. Alors, à la fin de cette émission, peut-être des questions plus générales. Vous avez donc vous êtes porteuse de ce handicap. Qu'est-ce que je disais en introduction, vous êtes une femme de courage, ou vous avez probablement une volonté exceptionnelle. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs handicapés ou pas handicapés? On a envie de dire, quand on vous voit, on se sent tout petit. On se dit qu'on prend une leçon de courage, mais tout le monde n'a peut-être pas votre volonté, votre niaque ou votre envie.
Peut-être je vais répondre à cette question par la citation d'une personne qui m'a envoyé un petit mail suite à mon livre et qui m'a dit « Votre livre devrait être remboursé par la Sécu, c'est le meilleur antidépresseur que je connaisse ». Et j'ai pris ça comme un super compliment parce qu'en fait, effectivement, moi ce livre je ne l'ai pas écrit du tout pour me mettre en avant, contrairement aux apparences. Je l'ai écrit pour montrer qu'un autre regard sur le handicap était possible. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir la personne handicapée comme étant, disons-le, hein, un poids pour la société, comme étant une personne à charge, comme étant une personne qui va être moins tout ce qu'on veut, qui va moins faire de choses, moins douée, moins capable, etc. Très sincèrement, je pense que par moment, on est beaucoup plus capable de résilience, d'endurance, ou au moins tout aussi capable que les gens qui s'en donnent la peine. Je pense que la seule différence, c'est que pour une personne handicapée, vivre une vie sociale à part entière, hein, je ne parle pas de normal ou pas normal, parce que qu'est-ce que veut dire la norme, si ce n'est la loi du plus nombreux. Si on veut vivre une vie sociale, il faut se battre pour. Parce qu'en fait, cette vie, elle est reconnue d'office, je dirais, à tout un chacun, sauf aux personnes différentes, quelle que soit la différence. Que ce soit un handicap, une religion, ou la taille, ou j'en sais rien. Donc pour une personne handicapée, si on veut vivre et être citoyen à part entière, il faudra déjà se battre plus que les autres. Donc ce postulat étant posé, ça s'appelle un choix de vie. Soit on veut se battre, soit on ne veut pas se battre. Si on veut se battre, eh ben on sait qu'on part pour un long parcours. Si on ne veut pas se battre, c'est simple, on reste dans son coin, on ne demande rien à personne, mais on est sûr de ne rien avoir non plus. Et d'avoir une vie peut-être assez monotone. Voilà. Pour ma part, j'avais choisi dès le départ, comme je disais, de me battre. Je ne le regrette pas du tout. Si ce n'est que quand on commence à vivre ce genre de vie-là, au bout d'un moment, plus personne ne voit le handicap. Et du coup, on est obligé de se battre en permanence. C'est peut-être un petit peu le seul revers de la médaille. C'est que on m'a souvent dit donc, que c'était impossible, d'où le titre du livre. Moi, je me suis ingéniée à prouver que si on voulait, si on était bien accompagné, si on avait autour de nous des gens qui croient en nous, on peut faire énormément de choses. Par contre, effectivement, voilà, faut se battre pour ça. Et puis après, on voit le résultat que ça donne, quoi.
Alors, on voit le résultat que ça donne, oui, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et je voulais aussi vous poser 2-3 questions sur le fait de suivre quelqu'un. C'est-à-dire, on imagine que ça, enfin, le guide, ouais. On imagine que ça crée une relation de confiance particulière. Est-ce que ça vous a éduqué à quelque chose de particulier? Qu'est-ce que vous diriez de cette relation peut-être si particulière qu'on a avec son guide quand on est champion de ski comme ça?
Je dirais que la première chose, c'est que même si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est une très bonne école d'altruisme. Parce que on a tendance à dire en équipe que quand l'athlète fait une erreur, ok, c'est normal, ok, c'est l'athlète qui a fait une erreur. Quand le guide fait une erreur, c'est pas normal. Or moi, je n'ai jamais considéré, alors ça m'est arrivé, hein, la première fois, effectivement, j'en voulais au guide, parce que pour moi, c'était celui qui ne devait pas faire d'erreur. Et ça apprend que, en fait, c'est un sportif, c'est un humain comme moi. Et donc c'est une grosse, remise en question, Parce que quelque part on confie sa vie à l'autre. Mais en même temps, la confiance, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je dois avoir confiance en le guide et le guide doit avoir confiance en moi. Et il n'y a que quand la relation est équilibrée, qu'elle est saine et qu'elle est sur cette base, effectivement, d'altruisme, que ça peut fonctionner. Depuis 3 ans maintenant, je circule avec un chien guide. Donc, ce n'est pas comme un guide en ski, hein, mais... Et c'est pas un être humain, mais pour moi, c'est pas loin d'être tout comme, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un être vivant qui a ses demandes, ses aspirations, et qu'il faut respecter tout autant. Et voilà, je pense que c'est une école d'altruisme, d'être guidé, que ce soit par un être humain ou un chien.
Alors, à la fin de ce genre d'émission, on pose quelques questions habituellement sur le sens que vous voyez à la vie. Alors, évidemment, vous avez une vie peut-être un peu particulière, un peu exceptionnelle. Qu'est-ce que vous diriez ? On est sur une radio chrétienne. Vous, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas, déjà ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, j'ai été baptisée, j'allais dire, quand j'étais petite, comme la plupart des enfants, en tout cas à l'époque. Vu tout ce qui m'est arrivé, vers une dizaine d'années, après avoir fait ma communion... Je vous avoue très clairement que j'ai quand même eu un peu de mal à continuer à croire ardemment, parce que je me disais que c'était quand même pas logique. Pourquoi Dieu, qui était censé être bon, me laissait aller à l'hôpital aussi souvent, puisque j'ai quand même enduré...
De nombreuses interventions.
Je me suis arrêtée de compter à 20, mais bon, voilà. Voilà, très, très clairement, il y a un moment où on doute, hein. Après, maintenant, je l'aborde différemment. Je l'aborde plus de manière humaine. Je ne me pose pas forcément la question à ces termes-là. Je me pose plus la question par rapport à aux relations des gens entre eux, dans notre société, au respect de l'autre en tant que personne, en tant qu'être humain aspirant à être heureux. Tout comme moi, l'autre dans le métro, il a peut-être les mêmes aspirations, même certainement. Donc voilà, je pense que c'est plus dans cette manière-là.
Alors vous diriez que pour vous, la vie a quel sens ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là de notre passage sur Terre, et quel sens il a ?
Je pense que la vie a du sens déjà si on se pose cette question-là, parce que la réponse n'est pas forcément évidente à trouver. Elle est certainement différente d'une personne à l'autre. Personnellement, j'ai donné jusqu'à présent plusieurs sens à ma vie. Je vais certainement en donner d'autres, en découvrir même d'autres, chemin faisant. Et je pense que chacun doit trouver son équilibre et sa perception de sa vie dans sa relation aux autres. Pour moi, c'est ça, c'est vivre, c'est être un être vivant au milieu de la société. Je ne suis pas tout à fait partisan de la vie sur une île déserte, même si ça peut avoir des bons côtés, hein, mais moi, personnellement, je ne pourrais pas.
Comment vous résumeriez, dans ces cas-là, le sens que vous avez donné à votre vie jusqu'à aujourd'hui, peut-être ?
Faire le mieux possible avec ce que j'ai. Pour l'instant, ça a été ça.
Voilà, et on peut dire que vous avez bien fait, puisque vous avez réussi. Et l'impossible, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, On m'avait dit que c'était impossible, aux éditions Loubatière. Et vous m'avez demandé de préciser que la moitié donc de la somme de cet ouvrage, qui est donc de 23 euros, est reversée à une association, donc mécénat chirurgie cardiaque.
Voilà. Oui, qui fait venir des enfants de pays sous-développés qui ne peuvent pas être opérés du cœur chez eux, et qui donc d'abord fait venir ces enfants pour les opérer, et maintenant forme les médecins de ces pays-là pour qu'ils puissent être opéré sur place.
Voilà, mécénat, chirurgie cardiaque, la moitié de 23 euros pour cet ouvrage, donc, et cette femme au parcours exceptionnel, Pascal Casanova. On m'avait dit que c'était impossible, aux éditions Loubatière. Merci.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.